J'en perds moins.
Et ça me met des papas,
oui,
ou des mamans en prison.
Sociaux, solidarité avec les sans-papiers.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Bonjour, après 4 mois d'absence, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser, me voici de retour à l'émission RESF en direct le mercredi à 18h sur Fréquence Paris Pluriel et FPP 106.3, la radio locale et sans frontières, la voix des sans-voix, 106.3 en FM, je viens de le dire, sur Paris et banlieue, et en streaming sur rfpp.net, jusqu'à retrouver les oreilles loin du front. Et cette émission sera rediffusée lundi matin à 7h30, bientôt disponible en replay sur le site du RESF, réseau-resf.fr. Et bien sûr, comme toujours, FPP a besoin de sous. Donc, si vous pouvez faire un petit ou un gros don pour votre radio, chèque à l'ordre de l'association Paris, P-A-R-I-S, pour programme associatif radiophonique d'intérêt social, à envoyer au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Aujourd'hui, eh bien, nous écouterons Pablo Krastoposki du RESF 94, enregistré lundi après-midi, parler du communiqué de presse national du RESF pour cette rentrée « Jeunes scolarisés en danger », un appel national unitaire à la solidarité, appel que l'on peut d'ailleurs signer en ligne sur le site du RESF. Et nous sommes en compagnie de Stéphane de l'ADJI. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et donc l'ADJI, c'est accompagnement et défense des jeunes isolés, et de Chernet, qui est un jeune isolé étranger. Bonjour Chernet.
Bonjour monsieur.
Et nous allons parler de l'ADJI. Qu'est-ce que l'ADJI ? Enfin, on en a déjà un petit peu parlé, puisque ça fait aussi un petit bout de temps que l'ADJI existe, je crois, depuis 2015. Et nous allons parler, Chernet, de toi et de ton parcours, de ton passage à la Gaîté Lyrique, et surtout depuis que tu es arrivé en France jusqu'à maintenant. Mais avant donc de parler et ensemble et d'écouter Pablo, eh bien cette rentrée 2025, la mobilisation est plus que nécessaire. Donc cette rentrée n'est pas seulement marquée par les mesures d'austérité budgétaire annoncées, c'est aussi une rentrée scolaire sous le signe de la loi Darmanin sur l'immigration et de la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025. La volonté de supprimer ou rogner l'AME, l'aide médicale d'État, d'allonger la durée de la rétention administrative à 210 jours, même si dans sa décision du 7 août dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les articles 1 et 2 de la loi qui a pourtant été promulguée le 11 août 2025, présentée comme visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. L'article 1er permettait en réalité de prolonger au-delà de 90 jours, la rétention administrative de personnes étrangères en attente d'expulsion, après avoir été pénalement condamnées, y compris pour des infractions sans gravité particulière, et sans que l'administration ait à établir que leur comportement constituait une menace pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a donc jugé qu'en permettant de porter la durée de leur rétention jusqu'à 6 voire 7 mois, 210 jours, la loi portait une atteinte disproportionnée à leur liberté individuelle. Et l'article 2, qui a été également censuré, permettait de maintenir une personne en rétention malgré une décision de remise en liberté prononcée par un juge, tant que l'appel du procureur de la République ou de l'administration contre cette décision ne serait pas jugé, ce que le Conseil a également sanctionné pour le même motif. Mais on reparlera sans doute bientôt de cette loi et de ces tentatives de passer, et on peut aller faire un tour sur le site du GISTI, gisti.org, pour avoir plus d'infos là-dessus. Quant à la loi Darmanin sur l'immigration et la circulaire Retailleau, donc du 23 janvier dernier, On commence sérieusement à en mesurer les effets. On avait déjà commencé avant l'été, mais maintenant on commence à avoir un certain recul et c'est catastrophique. Donc on va tout de suite écouter Pablo Krasnapolsky, enregistré lundi par téléphone depuis Créteil, qui en parle. Et Pablo va aussi nous parler des mobilisations donc, qui se font sur la France entière, notamment avec ce communiqué de presse sous forme de pétition, c'est les deux à la fois qu'on peut signer, et différentes actions et mobilisations qui auront lieu à Créteil cette semaine. Tout de suite, donc, Pablo Krasnapolsky. Bonjour Pablo Krasnapolsky, tu nous appelles depuis Créteil pour cette première émission de rentrée de septembre.
Oui, bonjour Yves.
Il se passe donc ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue un petit peu partout en France et notamment à Créteil, puisqu'on va parler du local.
Oui, alors déjà au niveau national, c'est une rentrée sur les chapeaux de roue.
Ouais.
Avec de très grands problèmes, de très grands dangers qui pèsent sur la jeunesse scolarisée étrangère. Et donc, on a affaire, là, on bute sur les mesures gouvernementales contre le droit des personnes étrangères qui ont été édictées, notamment par la loi Darmanin, bien sûr, mais aussi depuis janvier par la circulaire Retailleau.
Mmh.
Et donc, on a une réaction du monde de l'éducation. Outre le réseau Éducation sans frontières, il y a l'association de parents d'élèves FCPE, il y a les syndicats de l'éducation nationale, CGT FERC, FSU, la CFDT, Éducation, Formation, Recherche, Solidaire, enfin bon. Un panel d'organisations syndicales, mais pas seulement de personnel de l'éducation.
Mmh.
Il y a aussi les lycéens représentés par l'USL,
mmh,
Union des syndicats lycéens.
Mmh.
Il y a trois syndicats étudiants, l'UNEF, la FAGE, l'Union étudiante. Et puis évidemment, puisque l'éducation est un enjeu de société, il y a les organisations de défense des étrangers et de défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, le GISTI, la CIMAD, Droit Devant, bref, un panel assez large d'organisations a lancé un appel en cette rentrée,
ouais,
un appel intitulé « Alerte des milliers de jeunes scolarisés et leurs familles mises en danger
mmh. ».
Et en effet, le danger, c'est l'application de la loi Darmanin et de la circulaire Retailleau. Puisque la circulaire Retailleau abroge la circulaire Valls,
ouais,
et donc ça entraîne des difficultés pour obtenir, c'est pratiquement impossible d'obtenir un titre de séjour vie privée et familiale pour des parents d'élèves ou pour des lycéens.
Mmh.
L'exigence absurde de 7 années de présence en France qui est édictée par la circulaire Retailleau, alors que ça n'a aucune valeur légale. Hein. Légalement, il n'y a rien qui exige 7 années de présence en France avant d'être régularisé dans le CESEDA, dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
Mmh.
Donc c'est aussi quelque chose qui pèse. La multiplication des refus de séjour avec obligation à quitter le territoire. Et donc tout ça menace le droit à la scolarisation, le droit aux études supérieures, puisqu'une fois passé le bac, obtenir une affectation, c'est très difficile. Et en plus, beaucoup de jeunes veulent poursuivre leur formation en alternance, et c'est carrément rendu impossible par l'absence de titre de séjour.
Mais il faut dire qu'une alternance, c'est un contrat de travail.
Oui, bien sûr. Il faut un contrat en alternance, c'est un contrat de travail. Et s'il n'y a pas au minimum un titre étudiant ou un autre titre autorisant à travailler, on ne peut pas poursuivre en alternance. On ne peut même pas s'inscrire mmh. en alternance. Et donc, on a affaire, enfin, pour, en tout cas pour les majeurs, On a affaire, avec la loi Darmanin et la circulaire Retailleau, à un très grave recul. Dans le Val-de-Marne, d'ailleurs, nous avons eu un élève du lycée Darius Milhaud qui a reçu, en application de la circulaire Retailleau, un refus de son séjour qu'il avait pourtant déposé longtemps avant. Il avait demandé à être régularisé en 2023. Et le refus s'appuie sur la circulaire Retailleau. Il n'y a pas 7 ans de présence en France. C'est écrit noir sur blanc sur l'OQTF. Évidemment, les enseignants et la communauté scolaire du lycée, ainsi que des gens habitant dans les quartiers où il vit, à Villejuif, ont réagi. Nous avons, grâce à une mobilisation même difficile en juin, nous avons réussi à faire annuler cette obligation à quitter le territoire. Et le jeune, d'autant plus que ses parents sont français. Alors, il ne voulait pas lui donner un titre de séjour comme s'il n'avait aucune attache familiale en France. Et son père, en tout cas, pas ses deux parents, mais son père est français. Et il a des demi-frères et sœurs français. Bon, voilà, c'est Shadrach. Un exemple, et nous avons gagné pour lui, nous avons gagné pour Cynthia, dont j'ai déjà parlé
En
dans le
plein temps.
micro ici à la radio RESF. Nous, démobilisations permettent de gagner, mais on a quand même des milliers de jeunes scolarisés et leurs familles en danger, et donc il faut chercher. Sur le site RESF ou sur le site des organisations, cet appel, cette pétition nationale qui s'appelle Alerte des milliers de jeunes scolarisés, leurs familles mis en danger.
Voilà, c'est en page d'accueil du site réseau-resf.fr.
Tout à fait. Et donc, mis à part ça, nous avons des mobilisations locales, heureusement, qui nous permettent d'arrêter la main répressive, la frappe répressive de Retailleau. Par exemple, il y a deux lycées où les élèves ont été régularisés récemment, mais nous avons encore des élèves en difficulté de séjour. Et même parfois, en non-application de la législation. C'est-à-dire des jeunes qui ont dans la loi ou dans l'accord franco-algérien, par exemple, un accès de plein droit à un titre de séjour et qui se voient refuser cela entre 16 et 18 ans, alors que c'est inscrit noir sur blanc dans l'accord franco-algérien. C'est le cas de Racha, qui est une lycéenne de terminale. Dont on a entendu parler avec ce documentaire, le fameux documentaire, sur enfin une chambre à elle. Elle raconte dans ce documentaire de Lisa Monin, pardon, les difficultés qu'elle avait en tant qu'enfant de sans-papiers. Là, elle a bientôt 18 ans. Elle a demandé avant, dès juillet, l'application de la circulaire, de l'accord franco-algérien, qui prévoit qu'un enfant entre 16 et 18 ans qui a accès de plein droit, comme c'est son cas, à un titre, à une carte, un certificat de résidence algérien de 10 ans, puisqu'elle est arrivée en France avant l'âge de 10 ans, et elle est arrivée à 8 ans en France. Eh bien, la préfecture lui demande de revenir à 18 ans, de revenir à sa majorité. Elle a classé sans suite ses différentes demandes alors qu'elle avait un accès de plein droit de 16 à 18 ans. Donc, on a affaire une cécité volontaire de la préfecture qui ne veut pas, enfin de cette préfecture comme les autres, hein, qui ne veut pas reconnaître des droits qui sont pourtant inscrit noir sur blanc, soit dans l'accord franco-algérien, soit avec, en d'autres termes aussi, dans le CESEDA pour d'autres enfants arrivés avec leurs parents, avec un de leurs parents à l'âge de 13 ans en France ou avant. Bon, voilà, on a affaire à ces difficultés. Et du coup, nous avons, on trouvera aussi sur notre site une pétition pour rachat, parce que aussi bien les habitants d'Ivry où elle vit que la communauté scolaire du lycée Romain Rolland où elle étudie se mobilisent et considèrent que ce déni de droit n'est pas acceptable.
Voilà. Et puis, il y a une mobilisation et une manifestation mercredi 24.
Voilà, mercredi 24, il sera question de rachat, mais il sera question de beaucoup de monde d'ailleurs. Il sera pas seulement question des élèves et des parents d'élèves, il sera question aussi des travailleurs sans papier, notamment ceux de Chronopost. Nous organisons une manifestation qui va partir le mercredi 24 à 16h de la place Salvador Allende, c'est là où il y a la poste centrale de Créteil, et qui va se diriger vers la préfecture qui est pas loin de là. Donc à 16h, le rendez-vous est 3 places Salvador Allende, et nous allons défiler jusqu'à la préfecture pour demander qu'enfin elle ouvre les guichets, que des rendez-vous soient réellement attribués pour demander ou renouveler des titres de séjour ou même pour la naturalisation. C'est la dématérialisation a créé énormément de problèmes et qu'on abroge ces OQTF qui pourrissent la vie des gens, mais qui ne nous arrêtent pas. De toute façon, nous continuerons à nous mobiliser. Donc voilà les motifs, hein, si tu veux le titre de l'appel de plusieurs organisations. Il y a le réseau, mais il y a aussi des syndicats, des associations, des partis qui se mobiliseront à l'occasion. Et le mot d'ordre pour cette mobilisation, c'est halte aux maltraitances, ouvrez les guichets, régularisez.
Eh bien, merci beaucoup, Pablo. Peut-être tu as des choses à ajouter ou on en reparlera pas par téléphone, mais en
Ce que
live.
j'aurais ajouté, c'est simplement, il y a un signe qui montre les risques profonds pour la vie quotidienne de familles entières. C'est le risque de supprimer ou de restreindre considérablement l'aide médicale de l'État. Bon, c'est un signe de cette maltraitance. Mais la façon dont des lycéens se voient refuser leur demande de titre de séjour, même lorsque leur droit est inscrit noir sur blanc, soit dans l'accord franco-algérien, soit dans le CESEDA, cette façon de se comporter traduit quand même une véritable maltraitance. Voilà, donc c'est ce qu'on va rappeler le 24 septembre à 16h à Créteil.
Eh bien, merci beaucoup, Pablo. Et puis, peut-être tu pourras nous appeler depuis Créteil en fin de manifestation pour faire un petit débrief.
Oui, j'essaierai de vous joindre pour dire à peu près ce qui s'est passé. On va s'arranger pour ça. En tout cas, bonne continuation et on ne lâche rien.
Eh bien, merci Pablo, et puis donc à très très bientôt. Au
À très
revoir.
bientôt, au revoir.
On vient d'écouter Pablo Krasnapolski, enregistré depuis Créteil lundi après-midi. Peut-être des réactions? Stéphane, Léna, Cherna.
Bonjour. Bon, moi je m'appelle Chekine Tunkara. Je suis malien. Bon, je viens en France.
Attends, on parle de toi un petit peu après. Là, c'est des réactions sur ce qui vient d'être dit. Et
Oui.
puis après, tu parles de toi. Et donc, comme Pablo finissait, peut-être Stéphane?
Bah moi, je suis consterné, choqué, comme d'habitude, puisque moi aussi j'ai fait partie de l'ORSF à un moment. Mon histoire avec l'ORSF, elle est assez simple. En 2006, j'étais CPE à Paris, au Collège Mozart. Et j'ai une maman d'élève qui s'est retrouvée en rétention. Donc, on a mobilisé la mairie du 19e, elle a pu sortir. C'est comme ça que j'ai commencé à accompagner. J'ai fait aussi pas mal de parrainage républicain à la mairie du 19e, donc encore récemment, là. donc de jeunes majeurs ou d'enfants qui avaient des parents scolarisés. Et le constat que je fais, c'est que pour moi, il y a une espèce de xénophobie d'État, je ne vais pas dire autrement, qui s'est installée. Et quand on voit la surenchère sur l'immigration, le nombre de lois qui a été fait, le nombre de circulaires, est toujours dans le sens de durcir les choses. Voilà, donc moi, que je donne le conseil à chaque fois quand je rencontre des personnes étrangères, c'est toujours de prendre conseil, d'aller voir RESF ou d'aller voir d'autres associations comme la CIMA, Logistique. Jamais aller tout seul à la préfecture, parce que c'est se jeter dans la gueule du lion. Et puis la préfecture aussi, ça dépend de l'accueil. Moi, je l'ai vécu à Paris, où, et comme des stratégies, hein, par exemple, il suffit que la personne en face de vous soit surélevée, et vous êtes plus bas. Voilà, la façon de recevoir les gens, donc... quand même énormément de choses qui sont faites un petit peu pour décourager les gens. Et puis c'est une baisse de surenchère d'extrême droite. Voilà, on va dire clairement les choses. Hein. C'est la politique très proche du Rassemblement national. Je veux dire, ce que fait Retailleux, ce qu'a fait Darmanin. Je rappelle quand même que la dernière loi Darmanin, le Rassemblement national, c'était... Il me semble que Marine Le Pen avait dit que c'était une victoire. Elle avait formulé dans ces termes-là, elle était plutôt satisfaite. Voilà, donc c'est... Et en plus, avec des choses qui sont complètement fausses, qui sont démontées par tous les gens qui travaillent sérieusement sur l'immigration. Voilà.
Voilà exactement pourquoi il faut se mobiliser. Et comme Pablo terminait, on lâche rien, eh bien, on lâche rien. Et donc là, c'est HK, et ça a été enregistré en 2015. Et ça a été enregistré en public lors d'un rassemblement de soutien à Noranda-Fonte, dans le Pas-de-Calais, à la jungle de Noranda-Fonte, et on avait tous les pieds dans la boue.
Évidemment. Hey. Ici, on est aujourd'hui en solidarité entre gens qui ne lâchent rien. Ouais, nous. Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CV à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, immigrés, paysans sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se mettent à tomber.
On lâche rien,
tout le monde,
on lâche rien.
Voilà, donc on écoutait un petit bout, hein, on n'a pas le temps de tout écouter, on lâche rien, et HK et les déserteurs, mais il y avait aussi, enfin il y avait beaucoup de monde qui était là et qui chantait, c'était à Noranda-Fonte. Donc maintenant on va parler de l'ADJI et de toi Cherné, peut-être tu commences par nous dire un petit peu, nous rappeler un petit peu ce qu'est l'ADJI.
Oui. Donc l'ADJI, c'est un collectif interassociatif qui a été créé en 2012. Voilà, un petit peu pour suppléer aussi toutes les défaillances sur la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Donc nous, on fait une permanence tous les lundis, donc un rue de Nantes, voilà, dans les locaux de la CGT, que je remercie par ailleurs, qui nous prête les locaux. Voilà, pour l'instant, on est 5 bénévoles. On pourrait être encore plus nombreux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Et donc on est là un petit peu pour les recevoir, pour les écouter, les conseiller sur le différents plans, sur le plan juridique. Mais on ne fait pas que du juridique, on les accompagne aussi. Donc moi, Cherné, je le connais depuis novembre 2023, donc j'ai accompagné sur beaucoup de choses, notamment sur la scolarité, j'en reparlerai après. Voilà, donc l'ADJI, voilà, et on est en lien aussi avec les associations qui travaillent autour des mineurs isolés étrangers, que ce soit Utopia, par exemple, Droit à l'école, et tous les paris d'exil. Il y a vraiment différents... Il y a énormément d'associations, voilà, qui accompagnent ces jeunes, et heureusement que ces associations sont là pour les accompagner. D'autant plus que tous ces jeunes, quand même, il faut leur dire, c'est une honte, mais tous ces jeunes qui sont considérés, entre guillemets, comme mineurs et étrangers, et qui ne sont pas pris en charge par les sociales enfance, soit parce qu'ils sont dans l'attente une convocation chez le juge, soit parce qu'ils ont eu un refus, sont à 95% SDF. C'est-à-dire ils dorment dehors.
Voilà, et ça, Charnay, tu vas nous en parler. Donc, je te laisse te présenter à nouveau et nous raconter un petit peu ton parcours hein, depuis que tu arrives en France et peut-être un peu avant.
Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Cheikh Netunkara. Je viens du Mali le 7 septembre 2023. Tu vois. Bon, j'arrive en France. Bon, j'ai fait une demande au Tolbiac. Bon, il m'a refusé. Bon, donc, il a dit j'ai déposé un recours du tribunal de Paris. Bon, j'ai déposé un recours au tribunal de Paris. Bon, après, il m'a donné un recours. Bon, donc, avec un avocat.
Alors, recours parce qu'on avait refusé donc, ta minorité. On te considérait comme majeur.
Oui, c'est
donc, ça, c'était il y a 2 ans.
Oui. Bon, moi-même, séminaire parce que c'est de 2008. Tu vois, bon, c'est tout ce qu'il a dit. Moi, on n'est pas d'accord parce que moi-même, je connais mon âge, tu vois. C'est mineur, quoi, tu vois. Bon, donc, moi-même, pour moi, pour lui parler, bon, c'est pas facile pour moi, quoi, tu vois. Mais quand même, je devrais tout ce qu'on va avancer, quoi. Ok. Bon, depuis que j'arrive en France, bon, donc, j'ai dormi au Déo. Bon. Je suis avec l'Adji Messi, avec Ethiopia, avec Droit à l'école. Voilà. Et pourtant, je connais beaucoup d'associations. Bon, donc, mais je connais ces associations qui m'accompagnent beaucoup. Bon, c'est l'Adji. Bon, franchement, moi, je remercie toujours. Mais moi, c'est mineur. Il n'y a pas de parents ni rien. Moi, c'est étranger. Bon, j'ai dormi en dehors. Bon, donc, mon situation est très compliquée, quoi. Bon. Moi-même, j'ai besoin de. J'avance, quoi.
Mm-hmm.
Voilà. Moi, on n'a pas besoin de gérer ça comme ça. Bon, donc, je dors de haut comme ça. Bon, donc, j'ai commencé en école, tout ça. Et puis, déjà, en troisième année. Bon, franchement, tout l'état, tout est impossible. Tu peux m'accompagner jusqu'au début, jusqu'au bout. Si je trouve une solution, bon, donc. J'ai quitté comme ça aux galères, quoi, tu vois. C'est ça que je pleure dire, quoi. Parce que moi, je suis mineur, je ne connais pas personne, tu vois. Bon, c'est ça ce que je connais, c'est l'Adji. C'est l'Adji qui m'accompagne jusqu'à maintenant. Bon, tout le temps, moi, j'ai remercié au l'Adji. Bon, il n'a qu'à continuer comme ça, tranquille. Ça va aller, quoi, tu vois. Si j'ai trouvé des solutions, bon, donc, franchement, ça m'arrange beaucoup. J'ai quitté comme ça, de dormir de haut comme ça, franchement. C'est ça.
Oui, c'est très difficile, c'est de dormir dehors quand on a 14 ans, 15 ans, même quand on a 40 ou 50 ans, c'est impossible, c'est très dangereux.
Bah oui, non, c'est un scandale. Je veux dire, moi j'ai essayé aussi de trouver des solutions par rapport à ça, puisque. Donc, Cheikhney, pour juste vous raconter un peu l'histoire de Cheikhney, en tout cas avec l'Adji, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est le 27 novembre 2023. Il est arrivé, il était en grande détresse, isolé, il était vraiment déprimé. Donc, il y avait un collègue qui était là qui s'appelait Romain, donc je lui ai demandé conseil, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je l'ai orienté vers Quartier Jeune, voilà, qui est un lieu à Paris où il y avait une permanence un petit peu, où il pouvait voir quelqu'un pour parler. Et donc cette détresse est quand même restée installée pendant des mois et des mois, puisque plusieurs fois, il venait toutes les semaines à l'Adji, on essayait de l'aider. Donc son recours, il l'a fait au mois d'octobre 2023. Il a dû attendre février 2024 pour passer chez le juge. Il est passé une première fois chez le juge. Après, chez le juge a demandé une expertise osseuse. Ça a pris du temps. Pendant tout ce temps-là, il faut dire aussi que son avocat n'a pas été d'un grand secours, puisque malgré nos relances, malgré les relances de Cheikhney, il était aux abonnés absents, ne donnait pas de nouvelles. Donc ça a renforcé la détresse de Cheikhney. Donc les tests sont prévus le 7 novembre 2024. Donc Cheikhney, accompagné par les centres sociaux du SEMNA, se présente à l'hôpital. Donc lui, il avait la convocation en main. Manque de chance, l'hôpital n'avait pas la convocation. Résultat, il ne peut pas passer les tests. Donc c'est repoussé d'un mois. Donc il les a passés en décembre. 16 décembre 2024. Et l'audience chez le juge a eu lieu le 11 août 2025.
Mmh.
Et le juge, dans la décision, s'est basé notamment sur l'expertise des tests osseux. C'est un des arguments qui incite le juge à dire qu'il a pas lieu à une assistance éducative. Il a prononcé un non-lieu à assistance éducative. En clair, pour le juge, Chekné n'a pas fait la preuve qu'il était mineur, donc il est majeur. Je rappelle quand même qu'il y a eu un rapport du défenseur des droits sur les mineurs non accompagnés. Ça s'appelle « Les mineurs non accompagnés au regard du droit » 2022, où il est dit en toutes lettres, voilà, je vous lis juste les passages quand même qui sont intéressants hein, par rapport à l'accès des mineurs non accompagnés au dispositif de protection de l'enfance. Ils sont confrontés à des processus d'évaluation peu respectueux de leurs droits, à la remise en question de leur état civil, de leur identité, de leur parcours et leur histoire, et à des réévaluations multiples de leur situation. La défenseure des droits regrette à nouveau que les examens d'âge osseux ne soient pas proscrits par la loi. Et donc à Paris, je veux dire, là je parle vraiment pour Paris, tous les jeunes qui passent à la permanence de l'ADJ, qui ont fait un recours, tous les juges pratiquement demandent à chaque fois une expertise osseuse. Voilà. Donc là, par rapport à la décision du 11 août, donc évidemment, Chekné avait bon espoir, puisqu'il avait quand même plusieurs attestations très positives d'Utopia, du droit à l'école, de l'ADJ. Je tiens à dire qu'il est scolarisé, mais il est scolarisé après une bataille, parce que là, on revient quand même au corps défenseur des droits qui souligne que les mineurs non accompagnés doivent, en toutes circonstances et quel que soit leur statut, en cours d'évaluation ou confiés durablement à l'ASE, être assurés du respect de leurs droits fondamentaux à l'identité, à l'éducation, à la santé, aux loisirs. Pour l'éducation, c'est un combat. Moi, Chekné, par exemple, à Paris, vous savez, les jeunes étrangers, quand ils arrivent à l'étranger, il faut qu'ils passent par le CASNAV, c'est-à-dire où vous passez des tests de français et de maths, et après, on va faire une proposition de scolarisation. Et pour avoir rendez-vous au CASNAV, il faut se rendre sur le site de l'Académie de Paris. Il faut prendre un rendez-vous. C'est pratiquement impossible pendant 6 mois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je travaille dans l'éducation, je suis CPE, au lycée Colbert. Donc j'ai carrément adressé un mail au responsable du CASNAV, M. Deschamps, en disant, écoutez, c'est impossible de prendre rendez-vous, ça ne marche pas. Voilà, malgré... Donc il m'a conseillé de m'adresser directement à la personne en charge des mineurs non accompagnés. Depuis, j'ai les rendez-vous. Donc tous les jeunes, maintenant, grâce à ça, j'envoie un mail académique, j'explique que je suis bénévole à l'ADJ, je les accompagne, ils passent les tests. Grâce à ça, Chekné a pu passer les tests en décembre 2024. Il a été scolarisé à partir du 27 janvier 2025 jusqu'à juin 2025, pas dans une classe UP2A, dans un dispositif UP2A. En clair, il avait 3 demi-journées, donc 12 heures de cours en français. Et là, cette année, il est scolarisé en UP2A.
12 heures de cours à quelle fréquence? Par semaine, par mois, par...
Là, de janvier à juin, c'était 3 demi-journées. Donc il y avait 3 demi-journées, c'est tout. Et là, quand même depuis cette année, là, à la fin, moi j'ai rencontré son professeur du P2A et son CPE qui était très satisfait de Chekné. Hein. Franchement, il faut savoir que Chekné n'avait pas été du tout scolarisé au Mali. Voilà. Et là, il est scolarisé cette année en 3e UP2A pour les élèves non scolarisés à l'EREA Edith Piaf. Donc là, dans un dispositif... complet. Voilà, je vais les contacter justement pour la mise à l'abri, puisque moi, étant de l'éducation nationale, vu la situation qui était quand même SDF, j'ai même fait ce qu'on appelle une IP, une information préoccupante en mois de juillet, et la réponse qu'on m'a rétorquée, que j'ai là quand même, la CRIP, donc la cellule de recueil de l'information préoccupante, a reçu les éléments concernant le jeune Chekné Tounkara. Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure de qualifier cette IP. Le jeune ayant fait l'objet d'une évaluation concluant à sa majorité, bien que le recours ait été engagé, la décision n'est pas suspensive et ne permet pas l'intervention du service de protection de l'enfance dans l'intervalle d'un nouveau passage en audience. La seule piste est donc aujourd'hui celle d'une relance du tribunal par l'avocat afin d'essayer d'obtenir la tenue de cette audience au plus vite. La CRIP clôture le dossier en l'état. Voilà.
Voilà donc Chekné. Oui. Donc là, déjà, les tests osseux, c'est quelque chose qui ne devrait pas. Sont des tests qui sont faits pour déceler, décrypter des pathologies qui ne sont pas faits pour déterminer un âge légal, qui ne permettent pas de déterminer un âge légal. Et on avait fait une émission il y a quelques années sur un jeune qui avait 17 ans au poignet, c'était l'âge qu'il avait, et qui avait 37 ans à l'omoplate. Donc on a reconnu 37 ans. Alors que son poignet avait 17 ans. Je suppose qu'il était tellement voleur qu'il avait dû voler un omoplate ou un poignet. Enfin bon, c'est... Donc ça, les tests osseux, c'est des choses qui ne peuvent pas servir à déterminer un âge légal, qui n'ont pas été imaginés pour ça. C'est une échelle... C'est comme quelqu'un qui porte du 12 ans. Ma compagne porte parfois des vêtements de 14 ans. Mais promis, je ne suis pas un pédophile. Il n'a pas 14 ans. Hein, c'est donc quelque chose qui est très grave. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour toi, qu'est-ce que ça fait, ces évaluations et cette remise en cause finalement de ton identité? Puisque je suppose que tu as un acte d'état civil et que c'est l'acte d'état civil qui fait froid, normalement.
Bon, mon évaluation, bon, donc, j'ai passé au Tolbec. Bon, il m'a posé des questions. J'ai vu comment en Europe. Tu vois, non? C'est la première fois que j'ai dit mon ami Yaya Tsako. Tu vois? Parce que c'est lui qui m'a aidé. Moi, c'est pour mon père. Tu vois? Deuxième, mon oncle, Grissa. Tu vois? Magasin. Bon, donc, c'est lui qui m'a donné là où, tu vois, non, parce que mon père, bon, donc, il n'y a pas. Tu vois, mon papa, il n'y a pas. Parce qu'il a trouvé un accident, il est handicapé, quoi. Tu vois. Bon, c'est là qu'il m'a accompagné jusqu'à j'arrivais en Europe. Bon, donc, j'arrive en Europe. Bon, et tout le bien qu'il m'a demandé, c'est qui m'a accompagné. Tu vois, non? Moi, c'est pas mentir. Moi, je veux dire la vérité. Tu vois? C'est lui qui m'a accompagné jusqu'à. Bon, donc, j'arrive en Europe. Lui, il a plus âgé avec moi. Tu vois, non? Il a plus âgé avec moi. Mais, tu sais, dans la vie, si quelqu'un qui t'a aimé, il va t'aider, tout est impossible. Tu vois? Bon, c'est pas comme moi-même où j'ai quitté en Afrique comme ça. Parce que en Afrique, c'est ça là-bas. Il y a beaucoup de barrages. Bon, donc, moi-même, j'ai vu quelqu'un qui va venir ici. Bon, donc, moi, j'ai dit, bon, donc, je viens. Mon oncle qui l'a dit, bon, donc, si tu vas venir. Mais moi-même, j'ai vu, moi-même, tout seul, il ne faut pas venir ici. Tu vois, non? Si, bon, donc, il va quelqu'un qui va m'accompagner, tu vois, non? Si, bon, donc, j'arrive. Moi-même, depuis on est arrivé en Algérie. Tu vois, bon, donc c'est lui qui m'accompagne jusqu'à ici. Même où on est arrivé ensemble, il est resté en Italie, tu vois, parce que lui, il est déjà majeur, quoi. Tu vois, bon, on a dormi en campo, tout ça. Bon, donc, il m'a demandé qu'est-ce que tu vas passer, tu vas partir en France. Moi, j'ai dit, bon, donc, moi, j'aime la France depuis 12 ans, moi, j'aime la France. J'attends, mais moi-même, moi, j'aime de France, tu vois. C'est perdu 12 ans. Bon, je viens comme ça, à jusqu'à maintenant. Mais lui, là, il reste en Italie parce que c'est mon oncle qui m'a donné. Moi, je ne connais pas, mais c'est lui qui m'a accompagné jusqu'à j'arrivais. Ok, c'est ça.
Et donc, pendant que tu as passé l'évaluation, on t'a posé un certain nombre de questions sur comment tu es venu, tu as raconté comment tu étais venu, et quelles sont les raisons pour lesquelles on a refusé de reconnaître ta minorité?
Bon, c'est la raison qui m'a refusé, tu vois, non? Si moi j'ai parlé avec Yaya Sako, c'est vrai, Yaya Sako, il m'accompagne, mais aujourd'hui, bon, lui, il n'y a pas. Parce qu'il est déchiré déjà. Bon, je sais pas comment je vais dire. Yaya, bon, donc aujourd'hui, il n'y a pas. Parce que déjà, lui, là, c'est fini. Ça. Parce que s'il a besoin d'eux, on va tout faire en connaissance. Tu vois, non? Il m'accompagne jusqu'à maintenant, ici. Bon, donc, il n'y a pas de problème. On va rencontrer jusqu'à au début, jusqu'à maintenant. Tu vois? Moi, c'est quelqu'un, tu vois, non, moi, j'aime pas, moi, c'est correct, tu vois. Si j'ai dit quelque chose, c'est ça que, tu vois, non. Moi, j'aime pas de mentir. Tu m'as demandé, j'ai dit ça. Rien fait. Drissa, Yaya Sako. Mais c'est mon oncle, lui, il m'a donné à quelqu'un, tu vois, non. Il va m'accompagner jusqu'à ici. Parce que moi, c'est mineur, on n'a pas droit, je vais quitter en Afrique jusqu'à ici.
Ouais.
Non. Lui, il est majeur. Bon, donc, il m'a donné lui. Mais maintenant, lui, il reste en Italie. Depuis, on est rentré au commandant. je sais pas, j'ai oublié, au Lampedusa.
Ouais.
Voilà, bon, donc au dépôt là-bas. Bon, donc lui, il reste là-bas. Il m'a pris moi, il m'a envoyé des. J'ai oublié de Napoli. Voilà, il m'a envoyé au Napoli. Parce que moi, séminaire, il m'a mis en campo. Bon, donc moi, j'ai dit, je ne reste pas en Italie. Je viens en France. Il a dit non. Tu vois, pourquoi tu veux venir en France? Moi, j'ai dit, je viens en France. Moi, je veux venir en France parce que depuis j'ai 12 ans, j'aime en France.
Ouais.
C'est pas que comme aujourd'hui, moi, j'aime en France. Non, depuis moi, je suis en Afrique. Moi, j'aime en France. Tu vois. Bon, je viens comme ça. À jusqu'à, on a 3 personnes. On a quitté un campo. On arrive en France.
Ouais.
On tous, on a mineur. Tu vois. On a parti en gare de terrain. On a, c'est quelqu'un qui il m'a coupé au biais, ouais, là où comment on va venir. Tu vois, non? Moi, je viens en France. 3 jours, j'ai dormi au Gardilot.
Mm-hmm.
Au dehors, parce que je ne connais pas personne. Bon, 4e jour, j'ai vu une messie là où il va partout au travail. Il m'a demandé. Il a dit, il m'a vu ici. Ça fait 3 jours. J'ai cherché quoi? Moi, j'ai dit, j'ai cherché de là où quelqu'un qui va protéger un mineur. Bon, donc, il m'a montré. Il a dit, bon, donc, il va m'accompagner jusqu'à là-bas. Il a accompagné. On a parti au Tolbiac. J'ai fait une demande au Tolbiac. Ouais. Comme ça.
Et quand on t'a refusé, pourquoi est-ce qu'on a refusé de reconnaître ta minorité?
Bon, c'est le moyen que moi, j'ai dit. C'est cela même où j'ai calculé ça. C'est ça qu'il m'a refusé. Voilà. Bon, en plus, tu vois, non, il va comprendre comment on a traversé au désert, on a venu en France. Il va calculer tout ça.
Ouais.
Mais au désert, c'est pas comme ça.
Ouais.
Tu vois, non. Moi, c'est mineur. Je ne pas tout seul, je vais partir.
Ouais.
Il va me donner quelqu'un, tu vois, non. Il va m'aider jusqu'à ce que je vienne ici.
Mm-hmm.
Comme il l'a dit, il m'a aidé depuis, j'ai galéré jusqu'à maintenant.
Ouais.
Tu vois, c'est ça. Bon, c'est ça que moi-même, j'ai calculé, c'est ça qui m'a refusé. Tu vois, non? Bon, en fait, avec un papier qui est de carte d'identité, j'ai envoyé ici, tu vois, non? Bon, donc, il a dit, c'est carte d'identité, oui. Il m'a trouvé en France ici, tu vois, non? Comment moi, j'ai trouvé une carte d'identité? Tu vois, moi j'ai dit, j'ai trouvé un carte d'identité et c'est Ethiopia, il m'a aidé et j'ai trouvé un carte d'identité.
Mm-hmm.
Voilà, bon, donc c'est pas que quand moi-même je vais marcher comme ça, je vais chercher des papiers. Ces papiers, c'est pas facile, comment tu vas trouver?
Bien sûr.
Voilà, bon, ces papiers au Mali, des cartes d'identité, tout le monde le connaît.
Ouais.
C'est pas que comme on va trouver de n'importe quel, non, c'est pas comme ça.
Mm-hmm.
Tu vas passer des bureaux. Avec au préfecture comme en France,
oui,
tu vas trouver.
C'est même peut-être avec la carte NINA.
Voilà, c'est ça.
C'est encore plus compliqué.
Moi, je n'ai pas fait comme moi, j'ai parti. Quelqu'un qui va faire comme ça, il va donner. Non, ce n'est pas comme ça. Tu vois, non? Mali, bon, donc, c'est un pays. Ce n'est pas que comme c'est un papier, on va trouver comme ça. Si tu vas trouver un papier, tu vas aller au préfecture.
Mm-hmm.
Il va t'aider, il va donner, c'est tout.
Donc je suppose qu'on a dû, on a remis en question ça.
Bah, par rapport au refus de minorité, c'est toujours un petit peu c'est un peu délai de type. Hein. Je vais vous lire un petit peu ce qui est dit sur Chekney, mais qui se retrouve sur d'autres jeunes. Hein. Voilà, donc nous avons le regret de vous faire savoir que cet entretien ne permet pas de conclure à votre minorité et à votre isolement, dans la mesure où vos propos concernant votre famille, votre quotidien ne comportent pas de repères temporels croisés permettant de les rattacher à l'âge que vous déclarez. Donc ça c'est. Deuxième point qu'ils mettent souvent en avant, vous ne parvenez pas à vous situer par rapport aux événements importants dans votre pays d'origine, sur le plan politique, économique, social. Voilà. Là, on lui reproche, par exemple, enfin, vous déclarez ne pas vous rappeler de l'épidémie de la Covid-19. Voilà, donc on lui reproche ça. Voilà, à ce moment-là, il était encore au Mali. Hein. Je rappelle quand même que l'Afrique a été beaucoup moins touchée par le Covid que l'Occident, quand même. Après, troisième point qu'ils mettent souvent et que je vois souvent, c'est le fort degré d'autonomie. J'aime bien la formulation, donc je la lis parce que c'est quand même assez... Voilà, c'est toujours le même type de formulation. Le fort degré d'autonomie, de maturité dont vous avez fait preuve en prenant seul la décision de quitter votre pays d'origine avec des amis, sans projet de destination finale, en travaillant en Algérie, en poursuivant votre parcours migratoire depuis l'Italie, après y avoir séjourné un mois, n'est pas compatible avec l'âge que vous déclarez. Donc en clair, ils estiment qu'un jeune, s'il est un peu jeune et qu'il fait preuve d'autonomie, de maturité, eh ben, ce n'est pas compatible avec le fait d'être mineur.
Voilà. Alors que sans un minimum d'autonomie et de maturité, eh bien, tout simplement, on ne peut pas survivre dans ce voyage.
Voilà. Mais ça revient systématiquement, hein, je peux vous dire, j'en ai vu plein. Voilà. Et voilà.
C'est moi qui l'ai mis ici. Il a dit, moi, je travaille en Algérie. Moi-même, une journée, moi, je n'ai pas travaillé en Algérie. Non, moi, je n'ai pas fait.
Donc après, c'est toujours un peu les mêmes arguments qui ressortent, hein, sur toutes les... Voilà, c'est juste une feuille. Hein, c'est, voilà. Après, le jeune fait un recours et puis...
Parce qu'il va mettre beaucoup de choses qui sont dedans. Mais mon nom n'est pas dit. Tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui est là-bas, il va traduire.
Ouais.
Pour s'il ne comprend pas, il va dire quelque chose. Si on ne peut pas croire, on ne connaît pas. Parce qu'on vient d'arriver, on ne comprend pas en français. Mais on va attendre, mais comment on va répondre?
Donc là, moi, j'ai, par exemple, Utopia fait un point hebdomadaire, puisqu'ils sont à la permanence, justement, à Tolbiac. Là, pour vous dire, jusqu'à début janvier, jusqu'à fin août 2025, sur les garçons, il y a 1736 mineurs non isolés qui ont été refusés. Et sur les filles, on est à 148. Et sur ces 1736 refusés, en sachant que la plupart sont SDF, il y en a au moins 421 qui ont été reconnus mineurs en 2025.
Ok.
Au moins. On en a peut-être plus. Et donc là, à chaque fois, Utopia fait ce point toutes les semaines, on les a rencontrés, et demande à la mairie de Paris, entre autres, des intentions, une mise à l'abri, puisque la plupart de ces jeunes sont dehors. Parce que le seul moment où Chekné n'a pas été dehors, c'est quand il a participé à l'occupation à la Gaîté Lyrique, pendant 2 mois, c'est tout.
Alors je crois que Léna, qui est à la réalisation et à la technique, avait envie d'intervenir.
Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez?
Alors moi je t'entends, par contre tu peux... Coupe les micros et mets les haut-parleurs et à ce moment-là, on t'entendra.
Ok, normalement, c'est bon?
Non.
Oh mince. Est-ce que, Yves, tu pourrais donner ma question à nos invités, s'il te plaît, parce que je ne vais pas pouvoir mettre les haut-parleurs.
Oui,
là.
Bien sûr.
Je voulais rebondir sur ce que disaient Stéphane et Chekné. Peut-être que les deux pourront me répondre. Dans ce que disait Chekné, j'ai l'impression que les questions sont très orientées, en réalité, lors des entretiens pour déterminer la majorité ou la minorité des enfants. Et je voulais savoir si c'était le cas, si les questions, elles étaient orientées de façon à ce que les enfants répondent d'une certaine manière.
Alors, donc Léna se demandait si les questions n'étaient pas très orientées, les questions qu'elle pose, très orientées et orientées pour que vous répondiez d'une certaine manière et pas d'une autre. C'est ça, j'ai bien traduit. Donc si les questions n'étaient pas très orientées, donc ils posaient la question pour avoir la réponse que eux voulaient.
Bon, pro, il va me répondre. Je comprends.
C'est de savoir quand tu as eu l'entretien au mois de septembre, que tu as été reçu pour faire ta demande de minorité, c'est-à-dire est-ce que tu as eu le sentiment que les questions qu'ils te posaient, ils attendaient certaines réponses.
C'est une question qu'ils m'ont posée.
Voilà, si elles étaient orientées, ça veut dire que pour entraîner certaines réponses.
Bon.
Est-ce que c'était là pour te mettre en difficulté, en clair?
Oui,
c'était,
si.
L'idée, c'était pas d'être dans l'écoute, mais l'idée de te mettre en difficulté et te dire, voilà, oui, faut que tu répondes ça.
Pour te coincer, quoi.
Voilà, pour te coincer.
Bon, c'est une question qu'il m'a posée. Tu vois, il a dit, c'est comment je vis en France. Tu vois. Moi, j'ai dit, moi, j'ai quitté en Afrique, mais... C'est pas là-bas, c'est sûr, quoi. Il y a trop de barrages, tout ça.
Et puis, c'est toujours là un petit peu la guerre civile au Mali.
Bah oui.
Si. Parce que là-bas, c'est trop compliqué. Parce que, comment on va quitter en Afrique, on va venir ici. Parce que, ici, il va protéger des jeunes, quoi. De jeunesse, quoi, tu vois. Parce que même aujourd'hui, si tu as vu au Mali, il est comme ça. Tout le monde va courir, il va venir ici.
Ouais.
Bon, là-bas, bon, donc, c'est pas beau. Mm-hmm. Parce que personne n'aime pas de bagarrer.
Ouais.
Bon, là-bas, bon, si c'est bagarrer, vient, bon, donc, il calcule pas les gens, tu vois, non? Bon, on va obliger, on va venir, s'il va me protéger.
Mais par rapport aux questions qu'on t'a posées, est-ce que tu as eu l'impression ou est-ce que après que tu aies fait l'entretien ou tu as répondu normalement aux questions, est-ce que tu n'as pas eu l'impression qu'on avait fait des questions pour te piéger?
Ouais, il m'a piégé. Pourquoi il m'a piégé? Il a dit des présidents de comment il m'a proposé,
ouais.
Président de Ibécan.
Ouais.
Bon, il a dit je connais ça.
Ouais.
Moi je connais pas politique. J'attends de voir d'Ibécan. Bon, donc président de Ibécan. Bon, il m'a posé ça. Moi j'ai dit j'attends, mais je connais pas. Il m'a proposé Assim Kouita.
Mm-hmm.
J'ai dit ouais, lui il vient d'arriver, mais j'attends. Ouais, il a dit, bon, donc, il a commencé quand là où il va faire un président.
Mm-hmm.
Il va commencer un président. Voilà. Bon, donc, Assim Kouita, il est arrivé. Moi, je ne connais pas les dates, mais c'est qui est au dirigé au Mali.
Ouais.
C'est Assim Kouita.
Ouais.
Mais comment il a commencé, quelle date? Je ne connais pas franchement.
Oui,
voilà, c'est pour cela que moi j'ai dit je connais pas.
Oui, et puis un gamin, je suppose qu'un gamin de 14 ans, il connaît pas forcément la date à laquelle Macron est arrivé au pouvoir en France, quoi, tout simplement.
Il formule là, j'ai le rapport d'évaluation pour vous dire un petit peu, là, j'ai des traits là, par exemple par rapport à ce qu'on évoque. Là, ils évoquent là, ils marquent comme s'ils avaient essayé d'aider. Chekné à s'y retrouver. Afin d'aider à se retrouver, nous avons évoqué avec lui quelques événements marquant l'histoire de son pays. Covid-19, coup d'État de 2021, Ibrahim Keïta, qui n'a pas réussi à croiser avec sa vie personnelle. Donc voilà. Et autre passage que je viens de lire, le jeune sait qui ça a mis Guetta au pouvoir, mais si tu le coup d'État en 2022, il ne sait pas qui est Ibrahim Boukar Keïta, ancien président, qui décède en 2022. Voilà. Et ça, je peux vous dire, pour avoir lu plus de rapports d'évaluation, ça revient souvent.
Mmh.
C'est-à-dire qu'ils leur demandent à des jeunes d'avoir une culture politique et de connaître tous les événements qui se passent dans le pays. Moi, je suis sûr que si on pose la question à des jeunes Français de 14-15 ans, ils ne connaissent pas forcément l'histoire politique de leur pays. Et même certains, comme vous disiez, je ne suis pas sûr qu'ils savent, qu'ils connaissent le président.
Mali, tout le monde, c'est comme ça. Tu vois, si tu es mineur, tu n'as pas le droit, tu vas... parler en politique, c'est pas droit, parce que moi-même je connais pas.
Ouais.
Tu vois, non, depuis il m'a demandé, je connais pas. Bon, j'attendais ce président qui va diriger au Mali, c'est le président qui va diriger. J'ai parlé avec ça, c'est tout. Cette date il a commencé, bon, donc franchement, je connais pas.
Et il ne nous reste plus beaucoup de temps, hein, et je vois d'ailleurs que Les Oreilles Loin du Front, excellente émission, commence à s'installer dans les studios. Et j'aimerais bien qu'on fasse un petit bond maintenant, parce qu'il y aurait eu énormément de choses à dire, déjà en moins d'une, enfin, une minute, hein, c'est très court, sur ton passage à la Gaîté Lyrique, qu'est-ce que ça t'a apporté? La Gaîté Lyrique, déjà, ça t'a mis à l'abri?
Merci. Bon, Gatrelec, on a parti là-bas. Bon, avant, je connais, bon, c'est 300 et quelques au Gatrelec.
Mm-hmm.
Bon, après, et puis en plus encore. Tu vois, moins de 400, on arrive en caisse, tu vois. Bon, là-bas, c'est pas comme de haut. Surtout, on a rentré là-bas. Bon, donc, si on a trouvé une solution pour des logements.
Ouais.
Tu vois, c'est pour cela qu'on a fait ça. Il n'y a pas de soins, tu vois, non? Parce que ce mouvement-là, il y a trop d'air froid. Bon, personne ne l'aime pas, il va dormir dehors. Bon, on a galéré. C'est la première fois qu'on a dormi au Pomari. On a quitté au Pomari, on est arrivé à Gatrelec.
Ouais.
Voilà. Bon, on est arrivé là-bas. Bon, c'est commandeur, comme bénévole. Tout le temps, il va aller là-bas, il va soutenir quelqu'un. Après, on va lire, on va écrire, tu vois.
Ouais.
Bon, chaque jour, c'est comme ça. Voilà. Mais tout ce que, comment on va prendre des croix, on va en croiser, vraiment en croiser, quoi. On ouais. va prier en français, on va révoler, quoi, tu vois.
Ouais.
Tout ce qu'il va faire, bon, ça va, quoi. Mais on nous, tellement qu'on a galéré, il n'y a pas de soi. Même si on a trouvé des... on va protéger si bien, quoi. Parce mm-hmm. que on a trouvé des collages, tu sais. Bon, donc, on a dormi dehors. Ce n'est pas facile. Même ouais. si tu as besoin, tu vas prendre des révisions. Tu ouais. vas faire comment? Parce que tu dormais dehors.
Mm-hmm.
Bon, si ça a froid, il vient encore, tu vois, non? C'est comment tu vas faire? Même parfois, tu vas manger des nortines, tu ne trouves pas. Tu vois? Mais c'est en grade Ethiopia, bon, donc aujourd'hui, les gens, bon, donc, il est bien comme ça. Tu vois? Parce que Ethiopia, chaque soir, bon, donc, en Pomari, il va donner de manger là-bas. Ouais. Il y a beaucoup de quelqu'un qui va partir avec manger. Tu vois, non? Mais il y a beaucoup d'associations qui vont partir avec manger. Mais moi, je ne connais pas, mais je connais l'Ethiopia. Même moi, j'ai parti en Pomari à ouais. cause de l'Ethiopia. Tu vois? Même ces associations, moi, je connais à cause de mon avocat, parce que c'est lui qui m'a donné d'adresse. J'ai ouais. parti là-bas. Tu vois? C'est ça que, bon, donc, l'Adji, franchement, moi-même, j'ai remercié beaucoup. Moi, j'aime de l'Adji trop, même. Moi, j'aime de l'Adji. Depuis moi, j'ai arrivé en France. C'est l'Adji qui m'accompagne. Mm-hmm. Jusqu'à ce que j'ai trouvé à l'école. Moi, on n'est pas fait à l'école en Afrique.
Ouais.
Mais aujourd'hui, Dieu merci, tu vois, à cause de l'Adji.
Et là, donc, on sent... J'aurais aimé qu'on en parle un petit peu, mais malheureusement, on n'aura plus le temps de parler de l'école, parce que faut dire que là, tu es en train d'apprendre le français, tu es scolarisé en UPE2A. Et peut-être tu peux en dire un
l'année
mot.
L'année passée, UPE2A, deuxième année.
Ouais.
La rentrée, troisième année.
Ouais.
Et puis, tu vois, bon, Dieu merci. Moi-même, j'aime des étudiants, parce qu'au Mali, moi, on n'est pas fait étudiant. Tellement qu'il n'y a pas eu moins. J'ai besoin de dépôt jusqu'à ce que j'ai né. Moi, ouais. j'ai besoin de. J'ai fait des étudiants pour ça. Je vais voler quoi.
Ouais.
Mais il n'y a pas eu moins.
Mm-hmm.
Bon, j'ai préféré, je viens ici. Bon, donc, il va nous protéger. Bon, donc, on ne faut pas galérer comme ça. Dans la vie, tout ce qu'on aime, on va revoler quoi.
Ouais.
Tu vois?
Donc maintenant, Léna voulait dire quelque chose avant qu'on se... Non. Oui, non, mais Léna me faisait des signes qu'il nous restait même pas 3 minutes. Et donc peut-être un tout petit mot pour conclure très vite, et puis on va passer rapidement à notre petit agenda avant de se dire au revoir.
Bah, déjà, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. C'est important de visibiliser ce problème, parce que les mineurs isolés aussi dorment dehors, mais des fois ils sont invisibilisés. Donc là, il parlait de Pont-Marie. Moi, je sais que la plupart des jeunes, ils dorment à Pont-Marie.
Ouais.
Moi, j'en vois d'autres aussi, parce que ça m'arrive d'être le long du canal, d'aller voir. Il y a beaucoup de gens aussi qui dorment sous tente et qu'on ne voit pas. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup. Franchement, c'est de nous avoir accueillis. Et je pense que voilà, si ça peut aussi faire bouger les choses, faire réfléchir. Et moi, le scandale, franchement, absolu pour l'instant, indépendamment de tout le problème juridique, c'est que ces jeunes, ils soient SDF, qu'ils dorment dehors. Ça, c'est inimaginable qu'un jeune dorment dehors et qui ne sont pas mis à l'abri. Alors après, le problème, c'est que l'État et les côtés locaux se renvoient la balle. Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que ces jeunes soient mis à l'abri. Donc c'est un jeu de ping-pong, des fois, entre la préfecture, la mairie de Paris, l'État. C'est indigne. Indigne d'un pays qui se réclame quand même des droits de l'homme. Je tiens à le rappeler.
Voilà. Et c'est bien donc pour ça qu'il faut se mobiliser et que les mobilisations, c'est tout le temps, c'est maintenant. Et il va y avoir une grosse mobilisation demain, jeudi 18 décembre. Alors, il y a un rendez-vous à 13h, place de la République, pour constituer le cortège antiraciste et antifasciste, avec notamment la marche de la solidarité, les collectifs de sans-papiers et mineurs isolés en lutte, et l'organisation Solidarité Trans, avant de rejoindre la manif qui partira place de la Bastille vendredi après-demain, donc à 18h30. Ah oui, alors Le rendez-vous pour la manifestation demain, c'est à 13h, hein, place de la République, pour aller ensemble, donc place de la Bastille. Vendredi 19 à 18, de 18h30 à 19h30, c'est le Cercle de silence de Paris, devant le Conseil d'État, place du Palais Royal. Dimanche 21 septembre, de 17h à 22h, c'est une soirée de soutien aux squats migrants Alzol, expulsés avant l'été, et ce sera au CICP rue Voltaire, avec à partir de 17h, discussion et information avec le collectif, le squat Alzol de Pantin. Et il y aura trois groupes punk, musique punk, enfin, concert punk en même temps, donc au CICP. 21 Terre, rue Voltaire. Mercredi 24 septembre, c'est la manifestation à Créteil, je le répète, un rassemblement devant la poste, 3 place Salvador Allende, puis défilé jusqu'à la préfecture. Et le 5 novembre, le GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés, organise une journée d'information sur l'application de la loi Darmanin, et premier retour, premières alertes. Et ce sera donc le 5 novembre 2015. Cette journée est ouverte à tous et tous, et en particulier à celles et ceux qui conseillent et soutiennent les personnes étrangères. C'est une journée en hybride et il faut s'inscrire très vite, hein, donc sur le site du GISTI. Et il est donc maintenant de se dire au revoir. On retrouve les oreilles loin du front. Donc merci Pablo, merci Cherné,
merci
Stéphane, hein, de la G, merci Léna à la réalisation, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés.
RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.